le 18-20.
Nous sortons d'une première et intense période politique dont l'élection d'Emmanuel Macron aura été le point d'orgue, les législatives étant encore des points de suspension. Tout semble inédit, tout semble avoir tremblé, les hommes et les femmes politiques, le comportement des électeurs, les partis traditionnels. Depuis lundi, au téléphone sonne, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé en France et nous poursuivons le travail d'analyse ce soir avec Pierre Rosanvallon. Vallon, professeur au Collège de France, grand spécialiste de la démocratie et de la République. Dialoguez librement avec lui jusqu'à 20h, amis auditeurs.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Bonsoir Pierre Rosanvallon.
Bonsoir.
Professeur donc au Collège de France, chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique. Tout de suite au standard, la parole à Jérémy. Bonsoir.
Oui, allô, bonsoir.
Oui, on vous écoute.
Oui, par rapport à cette élection présidentielle, en fait, je me demandais pas si elle actait que la 5e République était déjà morte, sachant qu'on a eu un premier tour avec 4 candidats dans un mouchoir de poche. Je ne suis pas sûr que un second tour aurait été équivalent à celui qu'on a eu si on avait eu uniquement ces 4 candidats au premier tour. Peut-être que les choses auraient été bouleversées. Ensuite, un deuxième tour avec Macron qui est élu et 60% des Français qui ne veulent pas lui donner une majorité, une première dans la 5e République. Des gens qui détestent les ordonnances et 49-3 alors qu'ils font entièrement partie du système de la 5e République. Et puis tout simplement votre émission qui prouve que les citoyens sont capables d'être très pertinents et de participer activement à la vie publique et de la société, quoi.
Merci Jérémy pour l'ensemble de votre intervention. Profonde crise de la 5e République, Pierre Rosanvallon.
Crise de la démocratie, ça c'est sûr. Crise de la démocratie parce que les Français se sentent mal représentés, voient bien que les institutions politiques sont à distance de la société. Et donc, de ce point de vue-là, le diagnostic est clair. Nous sommes au milieu de ce que certains ont appelé une fatigue démocratique, on peut dire une crise démocratique. Mais est-ce que cette crise démocratique, c'est la crise de la 5e République? Eh bien, paradoxalement, je vais dire pas du tout. Parce que qu'imaginait De Gaulle, fondateur de la 5e République? Il imaginait une démocratie au-dessus des partis. Il voyait les partis comme des corps intermédiaires qui étaient en quelque sorte un obstacle au débat entre les Français. Il voyait les partis comme des corps intermédiaires qui avaient une espèce de puissance d'idéologisation de la société, de couper, de mettre des angles un peu partout. Et qu'avons-nous vécu là? Nous vivons l'effondrement des partis. Tant que les partis politiques ont été dirigés par des grandes personnalités, bon, citons Mitterrand par exemple, eh bien à ce moment-là, la démocratie des partis et la démocratie des leaders, elles étaient à peu près équivalentes. Si les partis se sont effondrés, c'est parce qu'ils étaient déjà malades, mais qu'aucun des deux grands blocs, droite et gauche, n'avait à sa tête un leader de grande importance. Ça n'est pas faire injure ni à François Fillon, il y a Benoît Hamon, de dire qu'il n'était pas des orateurs aussi puissants que l'était Mélenchon, qu'il n'incarnait pas une nouveauté comme celle de Macron, ou bien qu'il n'incarnait pas, je dirais, une vision de la société qu'on peut discuter, mais qui était puissante et forte, qui était celle de Marine Le Pen. Et la 5e République, c'est cela. C'est l'idée qu'au fond, c'est discutable, mais que la bonne politique démocratique, c'est le rapport entre un homme ou une femme et un peuple. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Les trois grandes figures de cette campagne électorale n'ont pas été des leaders de partis politiques. Qu'est-ce qu'un parti politique? Un parti politique, c'est un ensemble de personnes qui forment un groupe social, un groupe d'opinion, un groupe, je dirais, de préférence. Et ces personnes ensemble, elles dessinent un programme, elles élisent un leader. Et donc, on peut dire que la notion même de parti politique, ça participe d'une vision de représentation de la société. Ce sont des morceaux de société, des groupes sociaux, des groupes d'idées qui s'organisent ensemble pour faire vivre leurs idées et qui nomment un responsable ou des leaders qui les conduisent. Là, ce que nous avons vécu, c'est tout à fait autre chose, c'est l'inverse. Ça n'est pas des morceaux de la société qui font émerger en quelque sorte des programmes et un leader, ce sont des leaders qui simplement lance un appel au peuple en disant « suivez-moi ». Et la preuve de cette différence, c'est que dans un parti politique, on le voit encore aujourd'hui, ben ce sont tout de même les adhérents, d'une manière ou d'une autre, qui déterminent, par exemple, les candidats des élections. Et aujourd'hui, dans En Marche, aujourd'hui, dans la France Insoumise et aussi au Front National, eh bien, ça ne sont guère les adhérents de base qui déterminent, c'est grosso modo une politique qui est pilotée d'en haut. Donc, c'est... On peut dire que le monde des partis politiques, c'est l'essai de faire une politique qui ascendante, qui part de la société et qui monte vers le haut. Là, le monde des mouvements, et non plus des partis, sont au contraire une politique qui descend d'en haut vers la société. Et c'est un petit peu ce que faisait De Gaulle. Alors, bien sûr, on peut le critiquer, mais paradoxalement, ça n'est pas la mort de la Ve République.
Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir. En fait, moi, ma question était justement de me dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec, disons, beaucoup de groupes à l'Assemblée nationale, d'avoir, comme au temps de la 4e République, des motions de censure spontanées ou provoquées par le 49-3, qui feraient que tous les 5 ou 6 mois, il y aurait un changement de gouvernement.
Merci Michel. Alors là, c'est plus la crise de la 5e, c'est le retour à la 4e.
Oui, c'est le retour à la 4e. En tout cas, il est vrai que c'est l'interrogation. Parce que qui dit éclatement des partis veut dire aussi éclatement, ce qui est le point fondamental, de la bipolarisation de la vie politique. Or, le mode de scrutin qui était employé en France, c'est un mode de scrutin qui est fait pour la bipolarisation, qui est fait pour qu'au deuxième tour, il y ait grosso modo, pour simplifier, la gauche et la droite, ou en tout cas deux partis. Et c'est ça qui ne marche pas aujourd'hui. Mais la grande inconnue des élections législatives, c'est la réponse, elle sera donnée le soir des législatives. C'est est-ce que le président élu, Emmanuel Macron, sera capable de refaire le coup de 1962 ?
Expliquez-nous.
Qu'est-ce que c'était que le coup de 1962 ? Eh bien, c'était la première élection législative après l'arrivée au pouvoir de De Gaulle. À ce moment-là, les partis politiques dans le pays étaient forts. Le Parti communiste, extrêmement structuré, à plus de 20%. La SFIO avait perdu des plumes, et combien dans l'affaire algérienne, mais on n'était pas encore à 1969 et à ses 5%. Et puis les partis de droite, conservateurs, classiques, indépendants, existaient fortement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? De Gaulle, avec lui, il n'avait en quelque sorte que des morceaux épars du RPF qui survivaient un petit peu. Eh bien, il a suscité dans le pays une sorte d'énergie où un peu partout ont émergé des personnalités nouvelles qu'on n'avait pas vues avant. Et donc, le problème des législatives, c'est est-ce que on va reproduire cette espèce de mouvement de 1962 ou est-ce qu'au contraire, on va reproduire une élection classique de la 4e République ? Ben ça, je n'ai pas d'éléments pour répondre pour l'instant.
Rendez-vous au mois de juin. Françoise, bonsoir.
Oui, bonsoir, ma radio préférée. Je vous remercie d'avoir retenu mon appel. Moi, ma grande question, c'est effectivement cette question de 6e République. Il se trouve que je pense que le calendrier électoral du quinquennat et du comportement des législatives qui viennent avec détruisent totalement le débat politique, puisque nous sommes en campagne permanente. Je souhaiterais, en ce qui me concerne, que nous revenions à une idée de 6e République, avec effectivement un seul mandat pour le président de la République à 7 ans, et une législature à 5 ans. Ainsi, nous échapperions à cette espèce de folie de la campagne permanente. Et en ce qui me concerne, je souhaite effectivement, je ne me pose pas en termes de parti dans cette histoire, je me pose en tant que citoyenne. Il me semble que la proportionnelle est absolument nécessaire. Sans que nous revenions aux affres de la 4e, bien sûr. Il faudrait de toute façon trouver des solutions. Et pour en terminer, messieurs, je voudrais vous dire que je suis extrêmement heureuse que M. Cohen quitte France Inter, car il était un prescripteur d'opinion que je déteste. Bon. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, madame. La parole à Pierre Rosanvallon. Alors, on a fait la 5e République, la 4e, nous voilà à la 6e.
Mais alors, le problème de la 6e, si 6e République, c'est simplement un mot pour dire il faut transformer notre démocratie, lui apporter les améliorations, très bien. Mais je vois que très souvent, le mot 6e République fonctionne un petit peu comme une incantation et qu'il faut voir derrière quels sont les objets véritablement de la réforme démocratique qu'il faut faire. Je pense que dans la démocratie, il y a deux grands pôles. Un premier pôle, c'est d'organiser le système représentatif, et un premier pôle qui tourne en général donc autour de l'élection. Et là, la personne, l'auditrice, se dit, mais il faudrait davantage de proportionnelle. Mais la proportionnelle, c'est ce qui a tué, je veux dire, la démocratie en Italie. La proportionnelle, c'est ce qui a tué la 4e République. Nous avons besoin de proportionnelle au sens où il faut que tous ceux qui ont une importance dans le débat public soient représentés. Mais si la proportionnelle, c'est des sièges strictement proportionnels aux résultats des élections, à ce moment-là, c'est ingouvernable. Il y a toujours une balance à trouver entre le principe de représentation et le principe, je dirais, de cohérence de l'action gouvernementale. Il faut bien gouverner. Donc là, on est un peu trop du côté de la cohérence gouvernementale et pas assez du côté de la multiplicité des représentants.
Mais ce qu'on voit dans les trois premières questions, Pierre Rosanvallon, c'est une réflexion, au fond, sur les institutions. Sont-elles capables, quand elles fonctionnent bien, si on les change, de réenchanter la vie démocratique? Est-ce que ça passe par là, parce qu'on a le sentiment que c'est peut-être ça le levier qu'il faut actionner?
Eh bien, je dirais paradoxalement que ce n'est pas les institutions qui existent aujourd'hui qu'il faut transformer ou améliorer, ce sont aussi surtout de nouvelles institutions qu'il faut créer. Parce que tout le débat qu'il y a actuellement, l'auditrice se dit il faudrait revenir à un septennat de 7 ans. Mais si on a fait le quinquennat, c'est que les Français trouvaient qu'un mandat de 7 ans, c'était trop long. Toutes les démocraties aujourd'hui se posent la question des mandats courts. Regardez, un certain nombre de personnes ont posé en France la possibilité d'introduire la notion de révocation. Et qu'est-ce que la révocation? C'est la possibilité de raccourcir les mandats si on n'est pas content. Je dirais, dans toute l'histoire de la démocratie, il y a eu cette tendance à penser que une bonne démocratie suppose des mandats courts et suppose des mandats qui ne sont pas répétés. Donc ça, c'est le problème qui est posé avec la multiplication des mandats. Mais la démocratie, ça n'est pas simplement améliorer l'élection. La démocratie, c'est aussi instaurer des mécanismes de démocratie permanente. Parce que quel que soit les améliorations institutionnelles que l'on peut faire sur la durée des mandats, sur le rôle du président de la République, il y aura toujours le sentiment qu'on est dans une démocratie intermittente, qu'on va peut-être faire un peu plus de démocratie au moment de l'élection, mais qu'est-ce qui se passe entre les élections? C'est cela qui inquiète. En fait, le malaise démocratique, c'est que l'élection, elle ne peut pas se résumer au moment électoral. Et donc, il faut qu'il y ait tout un ensemble de fonctions, on pourrait dire de fonctionnalités démocratiques, que l'on rende plus vivantes en les développant. Quelles fonctionnalités? Ben, la reddition de comptes, par exemple.
Rendre des comptes.
L'évaluation des politiques publiques de façon permanente, des formes de contrôle des pouvoirs ou de surveillance des pouvoirs, de mise en jeu de la responsabilité. Donc ce dont nous avons besoin pour surmonter le désenchantement démocratique, et pour ne pas employer des expressions plus graves encore, c'est justement de faire vivre ces éléments de démocratie permanente. Et ça n'est pas simplement le Parlement qui peut le faire. Dans son histoire, le Parlement était dans l'histoire ancienne, le Parlement était le grand contrôleur. C'est lui qui obligeait le gouvernement à rendre des comptes. Il était le grand surveillant. C'est celui qui mettait en jeu la responsabilité du pouvoir. Mais ça n'est plus possible aujourd'hui. Pourquoi la reparlementarisation n'est plus possible? Eh bien parce que le Parlement, il est organisé soit pour soutenir, soit pour mettre en l'air le gouvernement, si je puis dire. Et donc, ces fonctionnalités démocratiques du Parlement, elles sont secondarisées par rapport à cette fonction essentielle, je soutiens ou je pousse en haut ou pousse en bas.
Georges, bonsoir, vous nous appelez de Caen. Encore une question sur la proportionnelle, il y a débat.
Oui, je suis très étonné d'entendre Monsieur Rosanvallon faire la promotion de la 5e République, s'il parle comme De Gaulle il y a 70 ans, c'est effarant. Bon, moi je dis que la proportionnelle, ça vous fait peur, mais les Espagnols ont la proportionnelle, les Portugais ont la proportionnelle, les Grecs ont la proportionnelle, la quasi-totalité des États d'Europe ont la proportionnelle. Est-ce qu'ils s'en portent plus mal? Alors, si vous ne la prenez pas, ça veut dire que aux élections, vous éliminez un certain nombre de partis, un certain nombre de gens qui ne sont plus représentés. n'est-ce pas? Et on en arrive aujourd'hui à ce que la majorité des gens n'étaient pas représentés à l'Assemblée nationale. Les candidats qui se réclament contre le système, eh ben, ils étaient majoritaires. Et ça vous surprend? Ben, moi, ça me surprend pas. Hein, il y a besoin de rétablir la proportionnelle avec un Parlement qui gouverne. Là, les alliances peuvent se nouer à l'intérieur du Parlement, entre différents partis, entre différents mouvements, comme vous voulez. Hein, mais c'est indispensable. Alors par contre, ce qui fait aussi le bins dans ce bazar qu'on a aujourd'hui, bah, c'est que on ne respecte pas la volonté des gens. Je vous rappelle 2005, encore une fois, 2005, le Parlement, nous les Français, ont voté contre la réforme de l'Europe. Eh ben, vous avez fait la réforme malgré tout, vous avez ce que vous récoltez.
L'inverse,
moi, pareil,
en fait.
Parce que dans ce système-là, depuis, je sais pas, j'ai 80 ans, je n'ai jamais pu voter pour qui je voulais. J'ai toujours voté contre. J'ai voté contre Marine Le Pen, alors j'ai choisi Macron. Mais j'ai pas du tout envie de Macron.
Vous n'avez jamais voté pour quelqu'un, Georges, avec le cœur et avec la joie.
Et la 6e République.
Ah bah très bien, d'accord. Nous y revoilà. Merci beaucoup, Georges, pour votre intervention et votre franchise. Je donne la parole au gaulliste Pierre Rosanvallon.
Je parle en observateur. Je ne suis pas le défenseur de cette vision de la démocratie. Je suis son commentateur et j'explique la logique qu'il y a entre, je dirais, la déconstruction des partis et ce qui était les intentions du père fondateur, disons, de la Ve République. Sur cette question de la proportionnelle, oui, il faut de la proportionnelle. Oui, il faut de la proportionnelle pour que des voix, même minoritaires, fortement minoritaires, puissent avoir leur expression parlementaire. Elles l'ont dans la société, mais leur expression parlementaire. Le problème est que si on fait une politique strictement proportionnelle, eh bien, on voit dans cette élection qu'on serait sorti au moins avec 5 partis au moins, qui auraient pu être à long terme à égalité. Et que ça rend difficile le gouvernement dans un pays dans lequel la culture n'est pas une culture du compromis. Parce que la proportionnelle plus intégrale, elle peut fonctionner si on est dans des pays où il y a le sens d'une culture du compromis. Sinon, c'est la logique du blocage. Et ça, c'était l'expérience en Europe, contraire à aux éléments positifs que vous dites, monsieur, qui était celle de l'Italie.
Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Lozère, bienvenue.
Merci beaucoup. Alors, je voulais vous dire d'ailleurs, premièrement, que l'auditrice perçait précédente, là, je suis en total désaccord avec ce qu'elle vous a dit, puisqu'elle vous a mis en cause, monsieur Coin.
Ah non, moi c'est monsieur de Morand.
Ah oui, oui. Ah, monsieur de Morand, pardon, elle a mis en cause, monsieur Coin. Excusez-moi.
Non, mais vous pouvez me mettre en cause si vous voulez, oui, Pierre, il n'y a aucun problème.
Et en plus, vous, je vous écoute, y compris quand vous étiez sur France Culture.
Oula!
Alors, voyez, c'est.
C'est une époque où la démocratie fonctionnait, hein.
Oui, mais écoutez, elle fonctionne encore, puisque vous acceptez, à la limite, de recevoir des auditeurs qui vous injurent. Donc, quand même,
écoutez, avec grand plaisir, je suis pas maso, mais ça fait partie de l'échange démocratique.
Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la 5e permet aujourd'hui des expressions citoyennes. On n'est pas allé au bout du bout du bout. Et je vais prendre un exemple, c'est une première qui a été faite pour le projet de loi numérique, c'est-à-dire qu'on a ouvert une plateforme, je crois que c'était en octobre 2015, pour demander l'avis des citoyens. C'était une première, ça n'avait jamais été fait. Et je crois qu'il y a eu 30 000 participations. Donc les citoyens pouvaient donner des avis, argumenter bien entendu. Moi en Lozère, bien entendu, avec mon association, les Web du Gévaudan, j'en ai donné un pour demander un droit à la fibre optique, pour être à égalité de traitement avec tous les autres. Mais c'est une méthode que l'on pourrait généraliser. Mmh. Et en particulier, alors je ne sais pas si c'est possible pour les premières lois à venir, là, que ce soit la loi pour la moralisation de la vie publique ou le droit à l'erreur, qui est là, le droit à l'erreur va ouvrir un changement de culture.
Ça a l'air d'être les ordonnances qui se profilent, Pierre. Hein.
Et je sais. Ça a l'air d'être les ordonnances. Là, ça risque de pas être possible dans ce cas-là. Mais par contre, je pense que c'est quelque chose que l'on peut retenir pour la suite, parce que quand je vois qu'il y a eu 30 000 participations sur un sujet numérique qui n'intéresse pas nécessairement tout le monde, j'imagine le nombre de participants qu'il pourrait y avoir pour des sujets plus importants.
Redites-nous, voilà, Pierre.
Je voulais dire par là qu'on a passé le tour de toutes les possibilités qu'offre la 5e pour la participation citoyenne.
Redites-nous le nom de votre association.
Les Web du Gévaudan.
C'est exceptionnel comme nom. Merci beaucoup d'avoir d'être intervenu au téléphone sonne, Pierre. Sur la production donc collective de la loi.
La production collective et donc la discussion collective. Il faut tout de même modérer la satisfaction de la personne qui vient de s'exprimer, parce que 30 000 c'est beaucoup, mais ça fait moins de 1 pour 1000 des électeurs inscrits.
Alors mais c'est un peu plus qu'un cabinet qui rédige la loi, qu'un cabinet ministériel.
Mais cela veut dire la chose suivante, c'est que je pense qu'une une des fonctions décisives de la démocratie, c'est de favoriser le débat et la discussion entre les citoyens. La démocratie, c'est d'abord le forum. La démocratie, c'est la voix du peuple qui s'exprime pas simplement avec le bulletin, mais dans la discussion. Et il faut trouver justement des espaces pertinents de cette discussion en dehors du moment électoral. Alors il y a des institutions, enfin des expériences qu'on appelle par exemple des conseils citoyens autour d'un certain nombre de sujets. Il y en a eu récemment autour des questions de la vaccination, où il y a des personnes tirées au sort et puis des personnes qui sont là davantage à partir de leur place dans des associations ou de leur expertise. Il y a beaucoup d'expérimentations de ce type-là. Le grand problème, c'est de savoir comment des discussions citoyennes qui sont menées dans des groupes limités, et 30 000 c'est limité, mais c'est déjà beaucoup, comment leur donner un écho national? Eh bien là, il faut reconnaître qu'il y a un moyen, c'est ce qu'on appelle le média. Le média, c'est ce qu'il y a entre la société, des individus, et la société, je dirais, qui fait la communauté politique. Restaurer cette définition du média comme l'intermédiaire entre les citoyens individuels et puis la communauté publique, ça c'est une grande fonction et qui, on pourrait dire, la fonction historique essentielle des médias dans les démocraties. Et effectivement, il faudrait trouver les moyens, mais tout ça c'est à expérimenter. Personne n'a de solution.
On essaye au téléphone sonne, Pierre Rosanvallon.
Ce qu'il faut faire, justement, c'est ça, c'est autour de, mais là on aborde d'une grande question en très peu de temps, c'est sur des points plus précis. Par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'autour d'une question comme la durée du mandat présidentiel, ou bien l'idée de révoquer des élus, il y ait une discussion publique qui se mène dans des petits groupes et ensuite qui trouve un écho plus large. Parce que l'expérience des conseils citoyens, il y en a qui ont produit des choses très intéressantes il y a quelques années, par exemple, sur la question des OGM, c'est que ils ne trouvent pas le débouché pour que ça redevienne un bien public, je dirais. Et c'est ça qui est... C'est dans cette direction-là qu'on doit inventer aujourd'hui, justement, et sur Internet aussi. Mais sur Internet, le grand problème, c'est qu'il y a aujourd'hui plus d'espaces qui sont des organisateurs de séparation, en quelque sorte, c'est le paradoxe, que des moyens d'organiser la communication et la constitution du public. La démocratie, c'est apprendre de passer des paroles individuelles à la parole publique.
Raoul, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Perpignan.
Oui, tout à fait. Je voudrais poser une question à M. Rosanvallon, que j'ai entendu d'ailleurs sur France Culture il y a 2 mois déjà. Et qui a publié un ouvrage que j'ai lu, c'est « Du bon gouvernement », c'est le titre de son ouvrage. Et je voudrais savoir quel jugement il porte par rapport au programme d'Emmanuel Macron, face à son livre, en regard avec son livre « Du bon gouvernement », ressemblance et différence, c'est presque un sujet de dissertation.
Il nous reste 15 minutes. Merci Raoul. Que pensez-vous donc du programme d'Emmanuel Macron en regard avec
votre... Je vais dire 2 choses très, très rapidement. D'abord, Emmanuel Macron, au moment où j'ai sorti ce livre, dans plusieurs entretiens dans des médias, a dit à quel point il trouvait ce livre intéressant et que ça l'inspirait. Je n'ai pas trouvé la trace de cette inspiration dans son programme. Mais en général, c'est parce que pour une personne qui était blindée d'experts de tous les côtés, qui avait tous les experts de la planète et de France à ses côtés, il a présenté, je dirais, quelque chose d'assez vague. Il a présenté une vision du monde. Il a présenté sa personnalité. Et le paradoxe, on a souligné dans cette campagne à quel point il n'y avait pas eu de débat de fond. Mais s'il n'y a pas eu de débat de fond, c'est qu'il y a eu une espèce de, je dirais, d'accord implicite des candidats pour en rester au niveau du conflit des personnalités et des conflits des visions très générales du monde. Alors, elle voulait dire quelque chose entre une vision anti-européenne, Ukraine tapant sur les immigrés, qui était celle de Marine Le Pen, puis une vision qui se veut libérale, ouverte du monde. Oui, on voit des différences, mais on n'est pas là dans l'ordre du programme. Et je vois pour l'instant que Emmanuel Macron, en tout cas, n'a pas indiqué, j'espère que la partie n'est pas terminée, mais n'a pas indiqué qu'il désirait justement s'orienter dans la voie de réformes qui pourraient être proposées justement pour passer d'une démocratie simplement électorale à des éléments de démocratie plus permanente.
Vous pensez qu'il y a un énorme flou idéologique chez lui ou qu'il n'y en a peut-être pas d'ailleurs?
Je ne pense pas qu'il y a de flou idéologique, il y a un flou programmatique. Je dirais la vision générale du monde, on la sent bien. Le mot social-libéral est à la fois vague, mais enfin, il le dit à peu près. Donc ça, on le voit. Mais il y a bien des façons probablement de l'être. Mmh. Et au niveau des modalités pratiques de réforme, pour l'instant, on est encore dans le brouillard.
Oui, attendons qu'ils prennent que la passation de pouvoir ait lieu. Gwenaël, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Oui, on est gêné ces derniers temps d'entendre des proches, dont on semble pourtant partager les valeurs, développer des arguments finalement très proches de ceux du Front National, de type médiacrate, oligarchie, système. Et donc, est-ce que M. Rosanvallon peut nous donner des éléments d'analyse sur ce rapprochement un peu gênant entre populisme de droite et de gauche?
Merci Gwenaël pour cette question. Pierre Rosanvallon vous répond.
Il y a cette question du rapport entre un populisme de droite et de gauche, elle est ultra sensible, mais en même temps, elle est absolument centrale. Il faut le dire clairement, il y a des points communs et il y a des différences très claires. Les points communs, c'est justement la vision d'une société qui est simplement structurée entre les gens, dit l'un, le peuple, dit l'autre, et puis simplement les élites, les médiacrates, la caste, les oligarques, les banques, et l'Europe en bloc fait partie de ce paquet ennemi, mais que l'on présente comme tout à fait réduit. Donc ce sont des visions polarisées de la société qui entraînent le paradoxe que paradoxalement un populiste de gauche ne va plus tenir un langage de classe. Il ne va plus parler d'ouvriers, mais il va parler des gens en général. Donc il y a dans tous les populismes, il y a un point commun sur la vision, je dirais, de ce qu'est le peuple comme espèce d'unité, alors que indépendamment de la caste, des oligarques, etc., il y a bien une société dans laquelle il y a des différences, il y a des clivages, il y a des fractures, et ces fractures sont multiples. Et ça n'est pas simplement la fracture peuple en général, élite en général, qui permet de le voir. Donc ça, c'est le grand point commun entre populisme de gauche, populisme de droite. Le deuxième grand point commun, c'est ce qu'on pourrait appeler des éléments de national-protectionnisme. Et que ces éléments de national-protectionnisme, eh bien, ils ont notamment comme point d'application, je dirais, un concernant la France, un rejet de la politique européenne. La grande différence, et ça, il faut tout de même le signaler, c'est que la vision, je dirais, d'un peuple de rejet, il n'emprunte pas tout à fait les mêmes choses. C'est-à-dire que chez les militants de la France insoumise, ils ne rejettent pas les immigrés, ils n'ont pas la vision xénophobe qui est tout de même assez structurante dans la vision du Front National. Donc ça fait une première différence et elle n'est pas négligeable. Mmh. Et puis la deuxième différence, c'est qu'il y a tout de même une vision de la redistribution sociale, une vision de on pourrait dire une vision de la justice sociale qui est tout de même qui participe d'un héritage de la gauche dans le populisme de gauche. Mais s'il est juste de dire oui, il y a vraiment des différences, il faut admettre aussi qu'il y a un certain nombre de points communs.
Christophe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Poitou-Charentes.
Merci de prendre mon appel. Donc, je vous appelle.
Ah, qu'est-ce qui s'est passé?
Allô?
Oui, voilà.
Voilà. Je vous appelle parce que depuis le début, donc, on parle de la crise de la démocratie. Donc, on rappelle les éléments de la quatrième, on parle des éléments positifs ou négatifs de la cinquième république, du scrutin majoritaire, du scrutin proportionnel, voire même d'une possible sixième république. Mais avant tout, cette crise, cette défaillance actuelle de la démocratie, symbolisée par la faillite, là, des partis politiques, Est-ce que tout cela n'est pas dû à une certaine démission des du politique, justement, vis-à-vis de certains lobbies économiques, des grands groupes multinationaux, qui peuvent imposer des mesures, qui peuvent imposer des lois, que ce soit au niveau national ou au niveau international comme l'Union européenne, et qui peuvent vider des lois de leur substance, comme la loi REACH sur les produits chimiques, ou qui peuvent imposer des lectures sur la nocivité ou non de certains produits. Et à partir de là, on arrive à une faillite du politique qui a une répercussion sur les partis politiques qui sont eux-mêmes décrédibilisés.
Vider de leur substance.
Oui, voilà. Et en plus, pour le mouvement sur le nationalisme, il ne faut pas oublier que depuis au moins 20 ans, en dehors du mouvement sur le nationalisme, on a la constitution de bloc continental. Face à l'Union européenne, s'est constitué le bloc ALENA. Et on a la même chose du côté asiatique qui est en train de se faire et du côté aussi de l'Amérique du Sud. Donc vous voyez que là, ce mouvement-là, il part de loin. Voilà.
Merci Christophe. Sur la question des lobbies et de la perte de substance même du pouvoir politique, Pierre Rosanvallon.
Il est évident que les grandes entreprises multinationales ou que les grandes places fortes financières sont des groupes de pression extrêmement forts. Mais il faut bien voir aussi qu'il y a une capacité effective des pouvoirs publics à les réduire. Regardez par exemple la question des impôts que payent les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, etc. Eh bien là, les pays européens commencent à les faire cracher, si je puis dire, et que leur politique de refuge dans des paradis fiscaux n'est plus acceptée et combattue, y compris par les États-Unis, parce que les États-Unis voient bien aussi que c'est des recettes fiscales en moins. Alors que lorsqu'il y a un besoin tant d'argent aujourd'hui, quand il y a des recettes fiscales qui peuvent arriver, eh bien là, on ne se laisse pas impressionner par les multinationales. De la même façon, regardez en ce qui concerne les banques, en ce qui concerne le pouvoir des banques, il y a eu tout de même eu un progrès considérable qui a été fait depuis un certain nombre d'années dans la réduction du pouvoir des paradis fiscaux, dans la réduction de l'opacité fiscale. Et là, pourquoi aussi ? C'est que même les pays qui, pour des raisons idéologiques, ou des partis qui, pour des raisons idéologiques, parce qu'ils étaient super libéraux, de droite, etc., étaient supposés se prosterner devant les grandes banques, eh bien, lorsque c'est le budget qui est en cause, commencent à regarder de près. Et lorsque les États-Unis ont dit à la Suisse, au crédit suisse, une des plus grandes banques suisses, vous n'opérerez plus aux États-Unis si vous ne lui dites pas quels sont les Américains qui ont des comptes en Suisse, eh bien le secret bancaire suisse a commencé à être levé. Donc il y a un combat, une pression permanente à faire, mais ne croyons pas qu'il y aurait cette superpuissance des multinationales et des banques contre laquelle nous ne pouvons rien faire. Mmh. Si nous pouvons faire, et il y a des exemples positifs justement de recul que les opinions publiques et les gouvernements ont pu opérer.
François, bonsoir.
Oui, bonsoir. Messieurs, merci de prendre ma question.
Voilà.
Je voulais revenir tout à l'heure sur les questions qui étaient soulevées tout à l'heure sur les meilleurs moyens de favoriser l'expression démocratique. Mm-hmm. Et je me demandais si nous ne devrions pas nous inspirer de nos voisins suisses qui ont pratiquement banalisé le référendum. Et je prends un exemple, la loi travail, la loi El Khomri. Combien de temps cela a pris, des semaines de contestation à l'Assemblée, des blocages parlementaires, des manifestations dans les rues pour finir par une 49-3, alors qu'un référendum là-dessus aurait peut-être pris moins de temps et consommé moins de moyens, et en tout cas aurait donné un résultat où les gens auraient mieux accepté la loi ou la non-vote de la loi. À ceci près qu'il ne faudrait pas que le gouvernement se sente à chaque fois obligé de démissionner ou le président parce qu'il y a un référendum qui est perdu. Parce qu'effectivement, sinon là, on en vient à ce qui existe, les référendums, on a même oublié quand est-ce qu'on en a fait. Voilà.
Merci beaucoup pour cette question. Pierre Rosanvallon vous répond.
C'est une question essentielle que celle de la place du référendum dans les démocraties. Le référendum, il a été en quelque sorte inventé dans l'histoire pour ratifier des constitutions. Le référendum, c'est le peuple qui s'exprime sur les règles, le contrat politique qu'il met en place. Mais l'exemple suisse amène à réfléchir sur le référendum. Il y a beaucoup de référendums et de votations en Suisse. Mais quel est le grand problème ? C'est qu'un référendum, c'est pour trancher une question. Mais est-ce que cette question que l'on veut trancher, on va avoir les moyens ensuite de l'appliquer. Bocher, qui est l'extrême droite suisse, a fait voter une loi, par exemple, par référendum, un principe d'exclusion et de limitation des travailleurs étrangers. Mais il se trouve que c'était contraire aux règles qui étaient le contrat entre la Suisse et l'Union européenne, contraire à des accords frontaliers. Donc, il faut qu'un référendum, il a sens quand on peut, il inclut les moyens de sa réalisation. Et vous voyez par exemple qu'une loi sur le travail, la loi El Khomri, qui est une loi très très grande et très compliquée, on ne peut pas, par un oui ou non, il faudrait en quelque sorte couper en morceaux toute cette loi. Et mener une politique, ça n'est pas simplement une addition de petites décisions. Parce que ces petites décisions, elles pourraient être contradictoires entre elles. Donc je crois qu'il y a une réflexion à faire sur le bon usage du référendum dans la démocratie. Il doit avoir sa place, mais fantasmer que le référendum puisse répondre à toutes les questions, ça me paraît une illusion. Grâce aujourd'hui à l'électronique, on pourrait dire que tous les soirs, à 8h05, là, à l'heure qu'il est, on va avoir les 10 référendums de la soirée et que les questions vont apparaître sur l'écran, on appuie sur son boîtier et il y aura les 10 référendums de la soirée. Pourquoi est-ce que ce serait une illusion? Parce que ce serait 10 décisions qui pourraient aller dans tous les sens. Or, ce dont on a besoin, c'est aussi de construire des politiques dans le temps. La démocratie, ça n'est pas simplement prendre des décisions en commun, c'est construire dans le temps des politiques communes. Et cela, le référendum n'est pas forcément adapté.
Est-ce que vous avez compris ou analysé ce qu'Emmanuel Macron veut instaurer à la place du Conseil économique et social, une chambre du futur?
Bon, j'étais un des premiers à dire qu'il faudrait mettre en place une académie du futur et c'était repris ensuite sous une autre forme par Nicolas Hulot. Je crois que c'est une bonne idée de dire qu'il faut trouver des espaces de délibération transpartisans et qu'il n'est pas simplement le nez collé à la vitre. Ça, je crois que c'est une bonne idée. Le Conseil économique et social et environnemental, on voit bien que c'est une institution qui doit être en redéfinition d'une manière ou d'une autre et qui a sûrement une piste très positive à développer dans cette direction.
Pierre Rosanvallon, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté le principe de ce dialogue à bâton rompu avec les auditeurs de France Inter. C'est toujours un plaisir que de le faire et de vous avoir à ce micro. Dans quelques instants, une minute environ, le journal de Laurence Thomas sur Inter.